Ça te dirait de voir Backseat jusqu'en 2027, 2040 même? Eh bah c'est possible, mais pour ça on a besoin de toi. Backseat, c'est une émission qui tient à son indépendance, c'est pourquoi nous avons choisi de faire reposer une partie du financement de l'émission sur notre public. Chaque épisode coûte 13 000 euros, ce qui comprend toute la logistique, mais surtout les salaires de chaque personne intervenant sur l'émission. Pour pouvoir diffuser toute l'année, nous avons besoin de 30 000 euros par mois. Alors rends-toi sur KissKissBankBank, choisis l'abonnement que tu préfères et profite des contreparties que nous proposons en échange, comme le fait de voir l'émission en intégralité sur YouTube dès le vendredi matin, ou l'adhésion au Club Backseat, qui donne accès à plein d'avantages. Si chaque spectateur régulier donnait 1 euro par mois, nous pourrions produire Backseat pendant de nombreuses années. Alors rendez-vous sur KissKiss pour soutenir cette belle émission. Et tout de suite, ta VOD.
Chers amis, je vous propose que nous accueillions deux invités de très très grande qualité avec qui nous allons échanger pendant le début, la première partie de cette émission. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Ariane, aussi plus connue sous le nom de Climarx sur TikTok, et pour Artoise, plus connue sous le nom d'Artillerie. Salut Ariane, salut Artoise. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Je suis très 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 heureux de vous accueillir sur cette émission. On est à Frames. À Frames, on parle de création vidéo sur Internet. Toutes les deux, vous êtes des créatrices de contenu en lien avec la politique et l'actualité. Apparemment.
Il paraît.
Vous êtes tombé dedans. Donc voilà, pour ceux qui te connaîtraient mal, Ariane, par exemple, toi, tu as commencé un peu par hasard, je crois, en te lançant sur TikTok.
Ouais, je pense comme pas mal de gens au final qui commencent sur TikTok, mais effectivement, c'était pas particulièrement un plan particulièrement bien ficelé. J'ai juste posté une vidéo et il s'avère que ma première vidéo a fait pas mal de vues, et puis j'ai commencé à parler avec les gens, et puis voilà.
Pourquoi tu t'es lancée sur TikTok? Pourquoi t'as choisi cette plateforme?
C'était pas vraiment prévu, donc je pense que c'était parce que TikTok, c'était vraiment hyper facile, et puis c'est moins de pression, je pense, sur TikTok que sur d'autres plateformes.
Ah ouais?
Je sais pas, TikTok, c'est quand même, y a une culture un peu de l'immédiateté, y a beaucoup de jeunes, c'était peut-être un petit peu moins de pression que de commencer sur YouTube avec, où c'est quand même...
Ouais, YouTube, c'est-à-dire faut arriver avec un format, une émission...
Plus produit en plus, quoi.
Ouais, YouTube, il faut que ce soit produit, il y a quand même une attente de qualité, etc., donc pour commencer direct sur YouTube. Et puis c'est plus facile aussi de rencontrer son public, n'est-ce pas, sur TikTok.
Ouais, c'est vrai. Pour ceux qui connaîtraient pas ton compte TikTok, tu parles de sujets d'actualité, de sujets de société, de sujets politiques, oui. Avec un angle marxiste. On peut le dire comme ça?
Ouais. Après, moi, je suis pas class first, quoi. Tu vois, je suis aussi féministe, je suis aussi écologiste. Mais oui, c'est vrai que, en tout cas, j'ai une lecture en termes de rapport de domination.
Ouais.
On va dire.
Ok, d'accord. Et toi, Artillerie, comment tu t'es lancé sur Internet?
Alors,
t'étais journaliste avant.
Alors. Je le suis toujours.
Oui, tu le dis, mais avant de te lancer, je veux dire.
Alors, en fait, moi, je me suis lancée sur Twitch à la fin de mes études, avec justement l'ambition, après mes études de journalisme, d'essayer d'exploiter cette plateforme pour y proposer du contenu journalistique, puisque c'était ce que j'avais étudié pendant toutes mes années d'études. Et donc, comme je savais que ça allait être compliqué de trouver du taf dans ce milieu, je me suis dit...
T'es dit let's go Twitch.
Oui, en fait, c'est exactement ça. Et puis, je me suis fait trop kiffer, en fait, j'aimais trop ça. Et après, j'ai continué et de fil en aiguille, ça a pris, quoi.
Ok. Comment est-ce que tu définirais ton contenu?
C'est très compliqué parce que, en fait...
Tu fais de l'analyse aussi de l'influence, de la création sur Internet.
En fait, au début, je parlais beaucoup de politique parce que c'était des sujets qui me tenaient à cœur. Et au bout d'un moment, ça m'a saoulée parce que ça me mettait dans une boucle où j'étais tout le temps énervée. Et je me disais qu'il fallait que je trouve un peu un moyen de souffler un peu. Et en fait, de plus en plus, je me suis aussi intéressée à Internet. Enfin, moi, j'ai toujours grandi avec Internet, les plateformes, les réseaux sociaux. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai plein de choses à dire là-dessus. Donc, je me suis aussi orientée sur un prisme création de contenu, influence, etc. Et je mêle un petit peu les deux aussi, parce que je pense que les deux peuvent être liés. Hein. Les politiques aussi et les réseaux sociaux, ça a pris beaucoup d'ampleur aussi ces dernières années. Donc... je mêle un peu les deux, et puis aussi, on fait beaucoup de divertissement, donc voilà, pour ceux qui connaissent.
Usul ?
Oui, Climarx, moi je dis Climarx, mais il faut dire Ariane ?
Tu peux dire les deux, tu peux m'appeler comme Climarx, Climarx, Ariane, tout
Va
bien. Usul.
Moi je t'ai découverte
dans... Moi je vais t'appeler Usul.
Oui, tu peux. Okay. Je t'ai découverte, il y a la vidéo sur Urbania, sur les extrêmes, le fer à cheval, etc.
Ouais.
Je te connaissais pas du tout et j'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est très nouveau le ton, tu vois, parce que c'est vrai que la politique, on peut vite être très chiant, un peu pédant, un peu didactique, un peu casse-couille. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi, c'est sympa, donc d'où elle vient, c'est qui ça? Et donc je suis allé voir sur TikTok un petit peu ce que tu faisais et je me suis dit, au fur et à mesure que elle a peut-être une petite formation sciences humaines. de fait. Est-ce que c'est du coup c'est le cas? Tu viens de c'est ça ta formation?
Ouais, c'est ça. J'ai fait des études de sciences sociales et après j'ai fait du cinéma documentaire. J'ai une formation de cinéma documentaire et ensuite j'ai travaillé 3 ans dans la recherche dans un laboratoire de sciences sociales. Voilà.
Ok, d'accord.
Et ben voilà, j'avais vu juste.
Non mais du coup ça m'intéresse pour les personnes qui nous regardent et qui savent pas, comment est-ce que toi Usul t'as reconnu qu'il y avait une formation en sciences sociales? C'est quoi les indicateurs, c'est quoi les marqueurs qui montrent, c'est quoi, c'est un vocabulaire?
C'est vrai, ça.
C'est un vocabulaire, c'est des références, c'est des raisonnements aussi, je sais pas, je saurais pas dire. Il y a une ambiance quoi.
Il y a une ambiance.
C'est-à-dire tu dis tiens on n'est pas au bistrot, voilà en fait.
Ou dans un édito politique classique quoi.
Voilà, ouais. Voilà.
Est-ce que ça risque pas d'éloigner des personnes éloignées de la politique justement qui se disent ouais mais moi j'ai pas la formation? C'est un truc que j'entends beaucoup moi. Ah mais moi j'ai pas la formation, j'y connais rien, je comprends pas la politique, je sais pas comment ça marche.
Non, mais
c'est parfois une difficulté que tu peux avoir quand t'es un simple citoyen lambda et que t'essaies de t'intéresser.
Entre avoir un avis politique et voter, et on présuppose en effet on est en démocratie, tout le monde on doit écouter tout le monde, c'est pour ça qu'on fait voter les gens. Mais parler de ça sur internet, essayer d'être un peu didactique, etc. C'est vrai qu'une formation sciences sociales ça aide un petit peu. Enfin.
Ouais, mais en fait, moi je pense que, tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais de la politique, c'est pas des choses que j'ai appris à la fac. Enfin, je dirais que.
Où alors?
Bah, en fait, c'est juste que la fac, ça m'a appris à lire des articles scientifiques, ça m'a appris à chercher mes sources, ça m'a appris à construire un raisonnement, à problématiser, etc. Donc, c'est sûr que ça aide beaucoup. Et puis mes références, enfin moi, ce que je lis, c'est des sciences sociales, c'est principalement de la socio, de l'anthropo. Ce que j'ai appris et ce que je raconte, c'est des choses que j'ai appris parce que ça m'intéresse et parce que je suis allée chercher des choses partout, quoi.
À toutes les deux, c'est quoi votre objectif avec vos créations, en fait? Vos objectifs, d'ailleurs?
Payer mon loyer. C'est vrai que payer
ça marche, c'est
mal,
cool, ouais. Je veux bien des tips.
Non, après aussi, moi, j'aime beaucoup transmettre et je trouve qu'avec Twitch, ce qui est vraiment cool, c'est que tu parlais d'accessibilité avec TikTok tout à l'heure, et moi j'ai eu un peu cet avis avec Twitch, c'est-à-dire que je trouvais que on est vraiment dans justement un espace où tout le monde peut venir un peu discuter, repartir, revenir, etc. Et un peu comme un PMU, même si sur un espace quand même plus construit, etc. Je trouve que justement de pouvoir être mis en contact avec des gens que j'aurais probablement jamais rencontré d'une autre manière, et vraiment dans un échange direct. Moi, j'aime beaucoup ça, et donc je pense que c'est aussi cette envie d'interagir avec des gens et de transmettre ce qui m'intéresse, d'échanger avec eux, d'avoir des débats et tout. C'est aussi ça, en fait, qui m'a poussé à investir.
Un rôle pédagogique et de
débat. Après, moi, je ne me revendique pas comme ayant un savoir, etc., mais le fait de pouvoir construire une discussion avec des gens, moi, je leur apprends des choses, eux aussi m'apprennent des choses, je trouve que ça fonctionne dans les deux sens.
C'est sympa pour ça, Twitch.
Ouais, vraiment.
Vous avez la particularité.
Attends, elle n'a pas répondu à la question. Évidemment, je suis assez d'accord. Je pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'encourager les gens à se saisir, à aller s'intéresser à des choses, à avoir des outils critiques, à aller s'intéresser à la politique de manière un peu plus accessible que d'une manière qui semble parfois très technocratique et très rebutante.
Après, je sais pas, on dit accessible, mais regardez C'est dans l'air, c'est accessible. Un édito de Apathy, c'est accessible.
Non, ça peut être aride.
Ouais. C'est aussi représenter aussi un autre point de vue.
Ah oui.
Des points de vue moins écoutés, des points de vue minorisés, des points de vue qu'on n'entend pas nécessairement.
Le faire aussi d'une la manière qu'on veut aussi, parce qu'à la télé, tout est hyper bridé. Sur Twitch, si j'ai envie de parler d'un sujet sérieux et d'avoir une commande qui fait des proutes en plus à côté, je le fais. Et ça, c'est trop bien, parce que ça peut paraître un peu illusoire comme ça, mais ça permet justement d'incarner vraiment ce qu'on va porter comme message de la manière qu'on veut, et c'est aussi super fun, et je pense que c'est aussi...
Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé depuis tout à l'heure, c'est le mot « gauche ». Vous êtes toutes les deux des femmes de gauche sur Internet, et vous faites des produits.
Il paraît, ouais. Il paraît.
Centre droit, Bayrou forever.
Discipline budgétaire, bordel. Est-ce que vous avez le sentiment de mener une bataille culturelle sur Internet?
Oui.
Wow, ok.
Rien que ça.
Malgré moi. Je sais que c'est pas forcément quelque chose que je voudrais, mais c'est sûr que, surtout quand on est une femme, déjà, on est un petit peu sur... c'est déjà plus difficile de trouver une crédibilité. Et du coup, on va être aussi dans une bataille d'idées plus forte, je trouve aussi, où il va falloir qu'on appuie plus nos points de vue, les justifier, parce qu'on va être très vite dénigré. Moi, je sais que les gens qui viennent sur ma chaîne pour me contrer, ça va être souvent sans argument, mais parce que je suis une femme et que je vais porter des valeurs, je vais pas savoir ce quoi je parle, etc. Il y a beaucoup ce truc aussi, on va te dire non, mais tu connais pas la vie. Ouais, paternalisme, ouais. Exactement. Ouais.
Bah, à gauche, c'est vénère. Hein,
Ouais. Enfin, pas quoi, à gauche, c'est juste aussi
oui.
À gauche. Enfin,
aussi
pas
à gauche, ouais.
À gauche que à droite.
Et après, on parle de ce qu'on connaît, effectivement.
Mais c'est vrai que pour le coup, moi, je pense qu'il y a vraiment un enjeu quand t'es une meuf sur Internet, parce que quand t'es une meuf sur Internet, d'ailleurs, quand t'es juste pas un mec blanc sur Internet, qui est quand même juste, c'était pas un mec blanc, c'est genre la base, t'es neutre. Et dès que t'as une particularité, c'est-à-dire moi, par exemple, ma particularité, c'est d'être une femme, mais si t'es noire ou si t'es trans.
C'est encore plus dur aussi. Hein,
bah, tu vas toujours cantonner à parler uniquement de ton expérience intime. C'est-à-dire, t'es une meuf, on va t'écouter à la rigueur que parler de féminisme.
Ou de harcèlement, par exemple.
Si t'es noire, tu vas pouvoir que te parler de racisme, etc. T'es trans, pareil, de transphobie. Ce qui est évidemment pas un problème, évidemment que c'est très bien qu'il y ait des meufs, des trans, des personnes noires qui parlent des problèmes qu'ils et elles vivent, mais on peut aussi...
Et on laisse les mecs blancs comme moi faire les généralistes. Mais c'est vrai,
moi
en plus.
Aussi, ouais. C'est vrai.
Oui.
Moi, c'est un sujet que j'ai rencontré, par exemple, parce que j'ai commencé d'abord à m'intéresser à la politique, et puis après, plus particulièrement au féminisme. Assez rapidement, on m'a cantonné, et je le vis très bien, hein, dans la section féminisme. Et pendant un moment, j'avais l'impression qu'on me sollicitait même plus pour les questions d'actualité politique de manière générale, sauf sur Backseat, évidemment, qui est une émission progressiste. Mais à un moment donné, enfin, je veux dire, dans les médias traditionnels, tu vois, genre France Info, machin. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est bon, je suis plus légitime en politique, je peux que parler de féminisme maintenant. Bon, les choses ont changé, heureusement.
Elle fait un bouquin en même temps.
Oui, certes.
Ça fait deux, même femmes en politique.
Mais c'est vrai, non, mais c'est exactement en parallèle, ce que tu racontes, en fait.
Si t'as un mec qui va faire sur un sujet particulier, il va pas être invité que pour parler de ce sujet.
Mais pour tout, en fait. Mais même de trucs de meuf, tu vois, par exemple. Si toi, tu sors un livre sur Marx, on va t'inviter pour demander qu'est-ce que tu penses de l'arrêt menstruel, tu vois.
Alors non, ouais.
Parce que souvent, quand tu regardes la gueule des plateaux pour cette question-là, c'était assez hallucinant, quoi. Beaucoup de mecs.
On va parler du pacte de stabilité budgétaire tout à l'heure. Hein.
Ouais.
Tout le monde est venu pour ça.
Waouh.
Non, il y a aussi la question, est-ce qu'il existe un web de gauche Antoine, dans l'excellent documentaire Backseat, tu témoignes que Internet a cette faculté à fabriquer des bulles. Et des représentations du monde. Et du coup, il existe un web de gauche dans lequel des gens de gauche ne consultent que des contenus de gauche pour satisfaire leurs envies de gauche.
Exactement. Et ça, c'était une question que je voulais vous poser, justement. À quel point vous avez l'impression, ou pas, de parler seulement à une communauté de personnes qui est déjà de base un peu d'accord avec vous et de pouvoir toucher un autre public qui ne serait pas forcément intéressé de base ou qui ne serait pas forcément d'accord et que vous pourriez convaincre? Est-ce que c'est possible sur Internet, ça?
C'est une bonne question. C'est une question que je me pose régulièrement. Après, sur TikTok, je pense que c'est possible parce que les gens sont assez jeunes et sont relativement pas très politisés. Alors, ça dépend évidemment, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment perdus et qui cherchent vraiment des réponses et qui posent des questions qui sont vraiment des questions de bonne foi. Et tu vois que c'est pas. Et donc, je pense que c'est effectivement possible. Après, voilà, en réalité, les discours d'extrême droite, les discours très racoleurs comme ça, ça marche hyper bien.
Et qu'est-ce que tu penses de la place des algorithmes dans tout ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à comprendre, à saisir, ou c'est vraiment un truc auquel on passe totalement à côté? Là, je vois par exemple Instagram, d'ici peu, va arrêter de pousser les contenus politiques. Ouais. Il faudra, en tant qu'utilisateur et utilisatrice, aller dans son profil pour dire non, j'ai envie de voir la politique, etc. Moi qui ai un média politique, c'est super chiant, quoi. Quel est votre rapport, en fait, à ces plateformes, et quelle est votre dépendance et potentielle indépendance? C'est-à-dire, si demain, par exemple, TikTok décide de supprimer les contenus politiques, qu'est-ce que tu fais?
Je vais sur YouTube, hein. Ouais. Et effectivement, c'est un peu. On parlait rapidement de ça avec Jean tout à l'heure, mais de toute manière, on sait que la liberté d'expression sur Internet, quand c'est dans les mains des GAFAM, c'est jamais acquis, quoi. Enfin, on peut pas compter là-dessus. Il faut bien, tant qu'on a les possibilités d'expression et les plateformes à disposition, faut en servir et faut parler dessus, quoi.
Tant qu'on a une fenêtre de tir, on s'en sert. On sait qu'ils peuvent nous la retirer aussi.
Ouais, c'est ça.
Tout le souci.
Il y a un autre point commun entre toutes les deux, c'est que vous avez toutes les deux bossé avec la CGT.
C'est vrai.
On a des extraits. Ouais.
J'ai bossé pour la CGT.
On a des extraits. Vous allez nous raconter. On a un extrait de toi, Artoise, qui fait une interview de Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT.
Comment tu vas?
Bonjour.
Ouais. Oh. Je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième émission du local et pas des moindres, puisqu'on reçoit aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Sophie Binet, donc la secrétaire générale de la CGT.
Intéressant, ce partenariat avec la CGT. C'était sur la chaîne Twitch de la CGT, en l'occurrence.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a amené à bosser avec la CGT, pardon.
Alors, en fait, je vais un peu rebondir sur la question de tout à l'heure, du coup, parce que j'ai pas répondu sur le fait de pouvoir toucher un public plus large. En fait, moi, j'ai eu aussi envie, un moment, de faire autre chose que de parler à une communauté de gens qui étaient déjà convaincus. Donc, j'ai commencé un peu à diversifier en parlant de d'autres sujets que vraiment l'actualité politique pure et dure. Donc ça m'a permis d'avoir aussi un public qui était peut-être politisé, mais peut-être pas autant à gauche, etc., mais qui reste des gens avec lesquels, tant que c'est fait dans le respect, etc., moi, de toute manière, il y a bien n'importe qui, en fait, sur ma chaîne, je vais pas forcément savoir qui est de gauche, qui est de droite, etc. Bon, bref, voilà. Donc déjà, ça m'a permis aussi d'élargir un petit peu ma communauté et d'avoir aussi, de sortir un peu de ces cercles-là, de toucher plus de monde. Et j'avais aussi cette envie de continuer à faire des interviews, ce qui est un peu le point central de mon activité aussi en tant que journaliste. Mais de le faire ailleurs.
Téléphone. C'est quoi ça?
C'est méchant, t'as coupé la parole à Artoise, vas-y.
Mansplaining comme d'habitude. Hein. Pardon. Et donc, j'ai été contactée par la CGT qui m'a proposé de faire ces interviews-là. Et donc, c'est une chance qui s'est proposée à moi. Et là, je me suis dit, c'est cool parce que je vais toujours pouvoir quand même parler de sujets de syndicalisme, l'importance aussi de se syndicaliser, les luttes, etc. Mais de le faire ailleurs que sur ma chaîne, où j'avais envie un petit peu aussi de faire d'autres choses et donc de pouvoir m'exporter sur la chaîne Twitch de la CGT. Et en plus, la CGT qui cherchait aussi de nouveaux moyens aussi de faire sa communication en utilisant les nouveaux outils, et Twitch en fait partie. Et donc c'était vraiment une opportunité. Et donc vous avez montré l'interview avec Sophie Binet, mais on a aussi à la base, c'est qu'on interviewe aussi des militants,
Des
syndicalistes de la CGT dans plein de branches différentes. On a fait Verbaudet, on a fait aussi les livreurs à vélo, etc. Donc le but, c'est aussi de concrétiser aussi les luttes, de montrer qui sont les visages. Et que les gens, en fait, aussi puissent s'identifier. Parce que moi, je sais qu'à titre personnel, la CGT, ça a toujours été quelque chose que j'ai vu comme une entité, mais c'est assez vague, en fait. On ne savait pas forcément comment se reconnaître dedans. Et puis, difficile aussi de se projeter et de se dire, est-ce que moi, je vais être concernée par ça? Quel est l'intérêt que je peux trouver?
Il y a une culture syndicale, c'est pas
évident. Hein. J'y ai trouvé moi-même un intérêt en faisant ces interviews et tout. Donc, je me suis dit, si moi, j'ai réussi à un peu me convaincre aussi de l'importance qu'il pouvait y avoir au monde syndical, etc., et aux luttes, je me dis que potentiellement, j'ai aussi peut-être pu convaincre des gens à s'intéresser aussi à ça. Et donc, c'était le
point. Oui, parce que alors moi qui ai fait le même partenariat, on était ensemble. Du coup, ça veut dire que tu vas au siège, à Montreuil, au fédéral, siège de la CGT. Tu as des syndicalistes, en effet, qui te racontent, y compris ce que c'est comme orga. Alors, il y a l'union départementale, il y a le machin. Il y a aussi des jeux de pouvoir internes. Et donc, tu découvres aussi tout ça, que tu peux pas nécessairement deviner de dehors. La fée des machins, la fée des trucs. C'est évidemment passionnant, c'est un monde à part entière.
Tu comprends toute la complexité aussi la gestion interne, etc. Et tu comprends aussi que tout le monde peut mettre sa pierre aussi à l'édifice, et qu'en fait c'est pas parce que tu travailles dans une petite entreprise qui n'est même pas forcément syndiquée que tu ne peux rien y faire, tu peux t'en investir sans avoir aucune compétence, etc. Et ça aussi, ça...
Et c'est effectivement un continent méconnu, la démocratie sociale. Les orgas en elles-mêmes, leurs luttes, leurs différences. Il y a plusieurs confédérations syndicales dans ce pays, et les négociations entre partenaires sociaux aussi, qui sont convoquées par entreprise, par branche, au niveau interprofessionnel. C'est tout un jargon, c'est toute une particularité, et c'est structurant de notre démocratie depuis 1946. Et je regrette qu'on n'en parle pas plus, y compris sur Brexit d'ailleurs. Toi, Climax, comment tu t'es retrouvé à bosser avec la CGT?
La société, ouais, grand partenariat. Ils m'ont proposé qu'on travaille ensemble, et puis moi, super, je suis hyper pro-syndicalisme, syndiquez-vous, donc parfait. Et du coup, c'est pas un partenariat de longue durée, j'avais fait une petite capsule pour eux sur les salaires. C'était un peu l'idée, c'était vulgariser les salaires, ils étaient en campagne là-dessus. Du coup, voilà.
Ok, d'accord. Ok, cool. Léa ?
Ouais, petite question aussi que je me posais, c'est comment, comment vous vous mettez dans une perspective d'élection ? Voilà, par exemple, on a les élections européennes qui arrivent. Est-ce que ça change votre façon de communiquer sur vos réseaux ? Est-ce que vous avez envie de faire de la pédagogie autour de cette élection ? Ou est-ce que vous pensez que ce n'est pas votre rôle ? Est-ce que vous en parlez avec votre commu ? Enfin, comment vous gérez une année électorale, en somme ?
C'est drôle parce qu'il y a quelques semaines, j'en suis arrivée à parler de ce sujet quand j'étais en live. Et je rappelais aux gens qu'il fallait qu'ils fassent attention à vérifier s'ils étaient bien inscrits sur les listes électorales.
Jusqu'au 3 mai.
Exactement. Et en fait, à ce moment-là, les gens me disaient « mais comment on fait, etc. ?» Donc en fait, ce qui est trop bien avec Twitch, c'est que tu peux dire « bon, attendez, on va faire une petite parenthèse ». Puis on y est allé et il y a plein de gens qui m'ont dit « ah bah super, j'étais pas inscrit ». Et donc en fait, ça vient un peu comme ça. Et puis du coup, des gens me disaient « mais attends, qu'est-ce que ça va, enfin pourquoi il faudrait qu'on vote, etc. »
Tu leur dis pas pourquoi voter ?
Comment ?
Tu leur dis pas pour qui il faut voter ?
Non, je vais pas leur dire pour qui voter.
Peut-être il faudrait. Hein,
parce mais que... non, mais par contre, Jean, on est allé voir qui était un peu. Du coup, j'avais regardé un peu en direct, qui était, ce qui allait être porté, les programmes, etc.
Luxman, puis, par exemple.
Je faisais des petits commentaires aussi sur. Je pense que les gens ont compris un peu vers qui fallait, enfin vers qui moi je m'orientais. Après, je suis personne pour leur dire pour qui voter. Hein, ouais, je suis pas leur daronne, quoi.
Ou même de voter, est-ce que tu te sens une responsabilité de dire à ta commu d'aller voter ?
On a eu ce débat aussi sur certains qui me disaient moi je vais pas voter, etc. Et chacun en fait est libre.
On est d'accord.
On avait un peu cette discussion de dire en fait ce qui est dommage c'est que le vote blanc est pas reconnu, par exemple, parce qu'il pourrait y avoir une vraie dimension politique dans le fait d'aller voter, d'avoir cette démarche d'aller voter pour voter blanc. Là où aujourd'hui, en fait, si tu vas pas voter ou que tu votes blanc, finalement, ça change pas grand-chose, en fait. Et c'est ça qui est dommage, parce que le taux d'abstention, il est comptabilisé, mais il a aucune incidence, en fait, sur les résultats. Mmh. Et on avait cette discussion de dire, ça serait cool, quand même, que le vote blanc puisse être reconnu.
Ok.
Ok. Et toi, Ariane ? Est-ce que tu essayes de créer des élections ?
Après, il y a la frontière de, est-ce que tu dirais pour qui t'as voté, tu vois, ou tu
moi, j'ai
voter.
Aucun problème à dire pour qui j'ai voté. Ouais,
toi, tu le fais ?
De toute façon, les gens s'en doutent.
Toi, non, Usul. C'est évidence.
Je sais pas, tu dis pas pour qui t'as voté, Usul ? Tu dis pas pour qui t'as voté, toi ?
Si, mais j'attends.
Mais si, tu donnes même des consignes de vote. Toi.
J'attends la donné je donne des pas de consignes de vote au présidentiel.
Tu donnes des conseils de vote.
Ouais. Mais je dis bien qui je déteste, tu vois.
Oui, ça
c'est
oui,
assez identifié, ouais.
On avait tous compris ça.
Non, mais en 2022, t'as publiquement appelé à voter Mélenchon.
Mais tu peux très bien aussi dire pour qui t'as voté et dire que cette même personne t'a déçu et que t'es déçu. Enfin, tu vois, il n'y a aucun souci aussi.
On a même fait des vidéos entières.
Est-ce que t'as été déçu ?
Déçu par qui ? Par Jean-Luc ?
Ouais.
T'en as fait des vidéos entières de
mais oui, oui.
Moi, je suis très déçue.
Du coup.
Sur le vote, non, mais enfin. Je sais pas, parce que moi, je parle pas vraiment de.
Du petit jeu électoral.
Ouais, enfin, je parle pas de politique partisane, je parle pas de politique institutionnelle, tout ça, donc. Cela dit, j'avoue que je suis pas hyper sereine face à la montée du fascisme, donc c'est possible que je dise...
Le milieu syndical.
C'est
bon, tu vas pas voter Bardella, d'accord.
On est bien avancé.
Aucun effort.
Voilà. Non, mais je pense que pour les européennes, c'est possible que je dise aux gens d'aller voter. Mais bon, moi, c'est un truc, voilà, le discours aller voter, c'est pas forcément le discours que je trouve le plus intéressant.
C'est pas ton aller voter, hein, mais plus faire de la pédagogie autour de cette élection. Par ailleurs, et un peu, déjà ne mobilise pas vraiment les foules, c'est rien de le dire.
C'est...
Et en plus, ce qui est très difficile à comprendre, c'est un scrutin particulier.
De manière générale, mise à part la présidentielle, les gens, ils n'ont pas d'intérêt pour les autres élections, alors qu'elles sont probablement...
Si, municipales, beaucoup, quand même.
Beaucoup,
vachement.
Ça, et ça dépend quel âge, ça dépend quel âge des électeurs.
Franchement, très honnêtement, pour le coup de mon cercle, les gens, c'est vrai qu'ils se focusent beaucoup sur la présidentielle, et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, les élections législatives, municipales, en fait, sont presque plus importantes s'ils veulent justement avoir un vrai impact sur des changements qui les concernent, etc., parce qu'en fait, la fonction présidentielle... il sert énormément, etc., mais c'est pas d'un point de vue territorial ou même local, etc. Il y a d'autres élections qui sont aussi importantes et qui sont beaucoup trop délaissées. Et même si peut-être tu as l'impression, moi je trouve qu'elles sont encore trop sous-estimées par la population.
Mais plus généralement que la politique institutionnalisée, le rapport au vote, on entend dire à peu près partout que la jeunesse n'est plus intéressée par la politique, qu'elle est plus intéressée même par la vie de la cité. Comment vous percevez ça ? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ou au contraire, il y a plus d'intérêt que ce que l'on veut bien dire ? Et entendre.
Moi, je sais pas trop. Enfin, franchement, de dire que les jeunes sont pas intéressés par la politique, en fait, ça veut un peu rien dire. Enfin, qu'est-ce qui est politique, qu'est-ce qui l'est pas. Alors, les jeunes vont pas voter, ça, c'est vrai.
Ouais.
Mais parce qu'on, est-ce que les gens sont pas intéressés par la politique ? Je suis pas sûre, quoi. Enfin,
moi, je pense qu'aussi, de manière générale, le gouvernement et ceux qui donnent ce genre de discours et diffusent ce genre d'idées, c'est parce qu'ils ont peur de la jeunesse, hein, globalement. Et pour le coup, non, la jeunesse, je pense, enfin, est très très politisée, mais ne va pas voter parce qu'elle ne se reconnaît pas, en fait, dans les institutions, dans les personnalités qui sont censées les représenter, etc. Et du coup, ils ont l'impression que de toute manière, c'est vain, en fait, et donc ils ne vont pas faire l'effort d'aller se déplacer parce qu'on ne fait pas l'effort de s'intéresser à eux. Et donc, non, bien au contraire, je pense que même les jeunes sont très politisés, en tout cas, de ce que j'en ai pu constater.
Mais par contre, les jeunes boudent, effectivement, comme tu l'as dit, Ariane, les formes traditionnelles de la politique, le vote, l'adhésion, le militantisme à la papa, c'est des choses qu'effectivement les jeunes refusent, ne font pas. Mais par contre, je suis complètement d'accord avec toi, Artie, les jeunes, quand tu leur parles deux minutes, ils ont des trucs à dire sur le monde qui les entoure. Ils ne sont pas complètement étrangers à la société. Ils sont pas complètement.
Ils ont une conscience politique vachement plus développée que leurs aînés. Tu vois, c'est parce que tu vas caler un bulletin dans l'urne tous les trois ans que tu es engagé politiquement.
Il y en a même beaucoup qui ne se rendent pas compte. Il y en a aussi beaucoup qui ne se rendent pas compte. Moi, j'entends combien de fois j'entends des gens me dire : Ah, moi, tu sais, je ne suis pas politisé.
Ouais, c'est ça.
Mais. Oui. Et là, je déroule un truc. Et tu dis : En fait, tu es méga politisé. C'est juste que tu ne veux pas l'être, tu n'aimes pas la politique.
Parce que tu ne te reconnais pas dans la popole, quoi. Dans la politique politicienne.
Parce que tu n'aimes pas les politiciens.
Ouais, et après aussi, jeune, c'est quand même une catégorie
protéiforme.
Par ailleurs, tu as raison, c'est pas une catégorie.
Le jeune.
Il y a un truc qui est très, très concret aussi, puisqu'on parle de jeunesse, c'est aussi, il y a aussi une entrée plus tardive dans la stabilisation au niveau du boulot, etc., qui fait que c'est au moment où on va aussi se positionner plus politiquement. Quand tu as ta place un petit peu dans le monde social et que tu vas orienter, est-ce que tu as un accès à la propriété, est-ce que tu as machin, c'est aussi à ce moment-là que tu vas. On parlait d'inscription sur les listes électorales, mais comment tu t'inscris sur quelle liste électorale quand tu étudies en ville, mais en fait tu habites chez tes parents, et puis en fait tu vas habiter où après l'année d'après. La précarité générale dans la jeunesse fait que aussi, t'es pas stabilisé. Tant que t'es pas stabilisé, tu t'inscris où, tu votes pour qui, c'est pas évident.
Autre sujet d'engagement, Artie, le week-end dernier, tu étais à un événement qui s'appelle Furax. Furax est un marathon caritatif qui se mobilise pour des causes. Cette année, la cause qui était défendue, c'était la lutte contre le harcèlement en ligne. On a quelques images, du coup, de ta chaîne, si j'ai pas bêtise, ou alors c'est la chaîne de Furax.
Oui, c'était chez moi, oui.
Donc voilà, c'était chez toi, t'étais incroyable. Comment ça s'est passé?
C'était pas mon premier événement caritatif, parce que j'en avais fait un, du coup, à la fin de l'année dernière, qui était Ta Cause, mais qui était en distanciel. Et là, du coup, c'était la première fois que je faisais un événement caritatif, donc en physique, et c'était... C'est trop bien. Enfin, moi, je sais que j'ai passé 3 jours à faire n'importe quoi, rencontrer aussi plein de gens que je connaissais de nom, mais que j'avais jamais eu l'occasion de rencontrer. Et il y a vraiment eu une osmose générale. On a été très bien. On s'est très bien occupé de nous. On a été très bien accueillis. Vraiment, il y a eu. Puis en plus, ça faisait plaisir aussi. Elles ont énormément travaillé à avoir cette inclusivité, cette mise en avant aussi de personnes qui sont encore trop invisibilisées, je pense aux personnes racisées, je pense aux minorités de genre et aux femmes de manière générale aussi. Et donc ça faisait extrêmement plaisir parce que ça a aussi montré que en fait c'était complètement possible. Et la somme qui a été récoltée, qui est quand même
150 000 euros.
La première édition,
c'est 3 fois de plus que la première
édition.
Ouais. C'est ouf.
Et en plus, elles ont aussi eu à cœur de mettre en avant des petites créateurs de contenu. Leur volonté, c'était pas juste d'avoir des grosses têtes pour dire nous on peut avoir les grosses têtes, on peut faire des gros scores, etc. Et ça a montré que en fait c'est complètement possible. Donc c'est aussi mettre un peu les autres face à leur responsabilité, de dire vous avez beaucoup plus de moyens, donc vous avez aucune excuse là-dessus, et de montrer l'exemple. En fait, le but, c'était pas de dire on peut faire mieux que tel ou tel événement, comme certains médias ont essayé de un peu le faire penser avec ce fameux Z-Event féministe, qui en fait c'était pas ce qui avait été dit. Ça nous a beaucoup, je sais que moi personnellement j'ai pas trop aimé qu'on nous présente comme ça, et ça a juste montré que si avec ces moyens là elles ont été capables de faire ça, ça veut dire qu'en fait tout le monde en est capable, et donc faites mieux aussi, montrez l'exemple.
Et toi, Ariane, il se trouve que Internet a tendance à beaucoup isoler les créateurs de contenu les uns des autres. Est-ce que toi, tu as des occasions de bosser avec d'autres créateurs de contenu, de faire des trucs collectifs? La CGT, on en a parlé, mais est-ce qu'il y en a d'autres?
Même la CGT, c'était pas vraiment collectif, parce que
tu produisais pour eux.
Ouais, je les produis, ouais. Pas tant, surtout que moi, j'habite pas à Paris, donc c'est vrai que quand t'habites pas à Paris, moi, j'ai rencontré quelques personnes, tu vois, avec qui j'ai bossé ou avec qui je m'entends bien, mais globalement, quand t'habites pas à Paris, tu croises pas les gens au bar.
À Lyon, on est quelques-uns. Il faut reconstituer des trucs locaux. À Montpellier, apparemment, il y a aussi une petite
Petit milieu.
Fougère, il y en a quand même vachement exclus.
Fougère éternellement.
Il y a beaucoup d'événements auxquels je suis invitée, et les gens partent du principe que j'habite à Paris. Et je leur dis non.
T'habites à Paris?
Et en fait, du coup, ils sont presque étonnés de dire « Ah, vous n'êtes pas à Paris, bon, bah, on ne peut pas vous défrayer, au revoir, quoi. »
Ah non.
Ah bah si.
Mais ça arrive, hein.
Ah bah si.
Oh là là.
Si. T'inquiète. Oh,
terrible, dommage, en fait. Terrible. Bon, en tout cas, nous, ici, on est à Avignon à l'occasion du festival Frames, chers amis, dans cette émission Backseat. Je vous propose qu'on joue à un jeu débile qui s'appelle le jeu à la con. C'est parti pour le jeu à la con. Alors, le jeu à la con, chers amis, comme chaque semaine, il s'agit, et d'ailleurs vous allez jouer avec nous, chers amis, il s'agit de deviner un personnage qui vous a été attribué aléatoirement.
Okay.
Aléatoirement, pardon, il faut que je parle dans mon micro. Je vous donne un petit papier sur lequel, prenez le papier ou sur lequel il y a écrit votre nom, et à l'intérieur vous allez avoir les personnages des autres joueurs, à l'exception du vôtre. Ok ? Donc le principe c'est que chacun a un personnage qui lui est attribué, sauf moi. Et vous devez.
Il y a un thème.
Il y a un thème.
Attends.
Je crois que j'ai déduit lequel j'étais.
Attends, t'as commencé.
Chaque fois, je me fais Ken. Comment ça, t'as déduit ?
Alors, est-ce que je suis un homme ?
Arrête, c'est pas toi qui commence.
Alors, Usul, est-ce que tu es un homme ? Oui, tu es un homme.
Est-ce que j'ai été président ? Oui, t'as été président.
Est-ce que je suis Georges Pompidou ?
Oui.
Putain, mais quel connard !
Oh putain, t'as speedrun le jeu, mais comme jamais, quoi.
Je peux faire une objection ?
Non,
la matrice, là.
J'aimerais annuler ce scrutin.
Non, raté.
Parce que je pense que les règles n'ont pas été respectées.
Bah vas-y, Léa, tu vas poser des questions, vas-y.
Ok. Est-ce qu'il y a pont dans mon nom ?
Oui. Pont d'Avignon, c'est bon, vous avez la blague. Uh-huh. Voilà, c'est ça le thème cette semaine.
Ah, c'est ça ?
Wow. Ouais.
Ok. Est-ce que je suis une personne vivante ?
Oui.
Oui.
Oh là. Politique ?
Oui.
Oh. Suis-je de droite ?
Ça dépend ce qu'on entend par droite.
Ça dépend du point de vue, ça c'est Ariane qui va répondre.
c'est laissé à ton appréciation personnelle ?
Oui. Pardon ? J'ai pas entendu.
C'est laissé à ton appréciation personnelle ?
C'est la gauche, la droite.
Je peux pas, je sais pas qui je suis.
Non, mais oui.
Ouais, c'est qu'on peut pas répondre.
Enfin, moi, Léa Chamboncel, je suis de droite,
ni
de
gauche.
Non. C'était ma question. Suis-je de droite ? Donc, c'est laissé à mon appréciation personnelle.
C'est pas si simple. Bah, en fait,
c'est pas si simple. Pas répondre comme ça. Il y a pas deux boîtes dans lesquelles on met des petits papiers.
Si on prend factuellement, non. Mais.
Bon, alors.
Factuellement.
Attends, mais je suis politique. De droite ? Non. De gauche ?
Non plus.
Non plus.
Tiens, démerde-toi avec ça.
C'est subjectif, on a dit.
Oui, c'est ça le problème. On est en 2024, Léa. La gauche, la droite.
Ouais, c'est vrai, ça.
Oui, c'est vrai.
C'est le dépassement. C'est maintenant.
Bon, Antoine.
Attends, du coup, m'avez dit non. Mais je peux poser une question qui a du sens. Parce que
c'est
si
toi
qui
poses des questions depuis tout
à l'heure. Est-ce que je suis du centre ?
Oui, voilà, on va dire ça comme ça, si tu veux. Oui.
Est-ce que je suis. Est-ce que j'ai plus de 40 ans ?
Oui.
J'imagine.
Ouais.
Oui.
Si, oui, je pense.
Oui.
Est-ce que je suis brun ?
Non.
Non. Antoine. Ou les filles d'ailleurs, parce que pour l'instant, il n'y a que les chroniqueurs habitués qui parlent, mais Artoise et Ariane, n'hésitez pas à poser des questions à votre tour.
Plus de 40 ans. Bon. Je suis une personnalité politique ?
Non.
Non. Ça commence bien. Du coup, j'imagine que je suis une personnalité politique ?
Oui.
Oui. Un homme ?
Oui.
Oui.
Est-ce que j'ai été accusé de viol ?
Ah non.
Ça réduit le.
Tu participes à la culture du viol.
Non, je crois pas.
Ouais. Ouais, voilà.
Ouais, c'est la bonne réponse, ouais.
Est-ce que je suis garde des Sceaux ?
Oui.
Oui.
Ouais.
Bravo Ariane. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. Artois, tu veux réessayer ? Ou Antoine ?
Ouais. Est-ce que je suis un homme ?
Oui.
Oui.
Un politique ?
Oui.
Qui est au pouvoir actuellement ?
Non.
Et bon, on est bien avancé.
Ça fait du monde quand même déjà.
Bah non, du coup, c'est à moi, je crois. Parce que quand
oui, j'ai perdu. Que...
Est-ce que je suis au pouvoir actuellement ?
Eh bien,
non,
tout à fait, non.
Plus tout à fait, non. Plus tout à fait, mais tu l'as été longtemps.
C'est laissé à ton appréciation.
Non. Du centre.
Je suis pas une personne politique.
Non, alors toi, t'es la seule à ne pas être une personnalité politique.
Ok, super, merci.
Mais tu te connais.
Oui, bah j'espère quand même. Est-ce que je suis du coup un homme?
Ouais.
Oui.
Ouais, ok. Si je suis pas une personnalité politique, ça vous le champ des possibles. Hein.
Réfléchis à la thématique aussi.
Ah oui, mais... est-ce que je viens du monde des médias?
Ouais. Enfin, dans le monde des médias, pas les médias traditionnels.
Les médias comment?
Donc Internet, quoi.
Ouais, voilà.
Je viens d'Internet.
Mais c'est laissé à ton appréciation, en fait.
Est-ce que je suis un créateur de contenu?
Oui.
Ça se trouve, t'es à oui. Frames, ça ouais. Se trouve, on sait pas. Ça se trouve, tu l'as vu tout à l'heure.
Moi, je l'ai croisé tout à l'heure.
Ouais. Ça se trouve, on a parlé ce midi à table.
Ouais, mais là, du coup, j'ai plein de noms.
Non, mais ça fait vachement d'informations.
Ah oui, mais bon, on va peut-être.
Et moi, vous me laissez avec mon appréciation, là.
Et toi, t'es une habituée.
Pas une invitée, toi.
Oui, c'est vrai, je comprends.
Est-ce que je propose des contenus de divertissement?
Ouais.
Ok. Tu penses?
Oui. Bravo, Artoise. L'excellent Ponce qu'on embrasse très fort. Le maître des fleurs. Alors, il nous reste Antoine et Léa.
Je sens que ça va être poussif, cette histoire.
Ouais, déjà. Je peux?
Ouais, vas-y, Léa.
Ouais, ça te dérange pas, Antoine?
Non, vas-y.
Alors, est-ce que j'ai été élue?
Oui, tu l'as été.
Super. Est-ce que j'ai eu des responsabilités exécutives?
Oui.
Oh. Au gouvernement?
Oui.
Bah ouais.
De droite ou de gauche?
Du dépassement.
En même temps.
Voilà.
Ah, donc c'était, je suis contemporaine.
Oui.
Oui.
Ah. Avec Pont dans mon nom.
Oui.
Ah oui.
Dans mon prénom ou mon nom?
Ça peut être l'un ou l'autre.
Là, on
demande et on te dira oui ou non.
Est-ce que mon nom, il y a Pont?
Non.
Bah.
Oui. Pardon.
Ah, d'accord. Donc c'est pas le prénom.
Non, pas le prénom.
Ok, vas-y Antoine.
Tu connais un prénom avec Pont?
Bah je cherchais justement. Jean-Pont.
Du coup.
Alors si vous voulez, on a une image à vous montrer de quelqu'un qui aurait pu tomber. Ça peut vous aider dans vos réflexions.
Non, je pense pas, non. Moi je n'ose pas me tourner parce que j'ai peur.
Non, faut pas se retourner.
C'est qui?
Ah non, j'espère que vous m'avez pas donné
vous
un.
Vous le connaissez pas? C'est bon, vous avez le droit de vous retourner. Vous le connaissez pas?
Le maire?
Non.
Eh ben c'est Jean-Pierre Pont, voilà, qui est député Renaissance. Vous êtes content de l'apprendre?
Ah ouais.
Voilà. Non, on a été sympa, on l'a pas mis dans le jeu.
Non, en effet, ouais. Valait mieux. Ouais.
Du coup, est-ce que je suis un homme politique français?
Oui.
Allez, putain, faut un moment là. Oh. C'est bon.
Ah mais plus on passe de temps là-dessus, moins on a de temps sur les sujets de l'actu.
Non, tu n'es pas de gauche.
Ok. Ouais. Je n'ai pas.
Limite un peu facho, tu vois.
Ouais, t'es plutôt facho, ouais.
Est-ce que je suis proche du président de la République?
T'as dû l'être.
T'as dû l'être, ouais.
À un moment. T'as été nommé quand même.
Ouais, t'as été ministre. Donc.
Peut-être la couleur de cheveux, ça pourrait t'aider.
T'es passé dans Backseat.
T'es passé dans Backseat, ouais.
Oh la pauvre.
Je sais pas si ça t'aide, hein, mais. Et c'était une très bonne interview, je me souviens.
Ah non.
Plutôt sympa pour quelqu'un d'En Marche.
Oui, non, allez, c'était. Il y avait du fond, c'était chouette.
C'est pas Clément Beaune.
Bah non.
Clément Beaune. Il y avait du fond.
Non mais cherche pas, c'est pas un indice, ça.
Ça c'est Jean qui le dit. Moi j'ai pas dit il y avait du fond. J'ai dit.
J'étais là ou pas?
Ça allait sympa.
Est-ce que j'étais là?
Je me souviens plus, mais c'était l'époque où il y avait que Jules et toi, je crois. C'était la première saison.
Ah, c'était première saison.
Ouais.
Saison 2. Ah ouais, non, t'as raison.
Non, saison 1. Hein.
C'était, c'était à Ivry.
À Ivry, ouais, dans les anciens locaux.
Attends, on a eu qui? On a eu Castaner, ça peut pas être ça.
Elle est revenue. Ah oui, elle est revenue une deuxième fois l'an dernier en saison 2.
Ah ouais.
On l'a eu deux fois dans Backseat, c'est vrai.
En saison 2? Deux fois?
En saison 2, je saurais pas te garantir que t'étais autour du plateau, je sais plus.
Quelqu'un qu'on a eu deux fois.
Antoine, t'arrives à.
Mais vraiment pas.
Quelqu'un En Marche.
Du coup, plutôt d'extrême droite?
Plutôt d'extrême droite, ouais. T'as été candidat.
J'étais candidat.
J'ai envie de dire qu'on entend parler de lui une fois tous les 5 ans.
Ouais, c'est un peu ça. Il a une espèce d'existence comme ça. C'est pas un grand homme, hein. Vraiment
non,
pas.
Non.
Vraiment pas un grand homme.
Vraiment
politique.
Pas, non.
Mais un espèce de
facho.
De facho un peu guignol.
Un peu minable.
On retrouve tous les 5 ans, qui ramène sa gueule. Il fait des esclandes sur les plateaux, il adore faire ça. Il fait des esclandes sur les plateaux. Et à l'Assemblée aussi.
Ouais.
À l'Assemblée,
quand il... Si c'est comme ça, je quitte le plateau, comme ça, tu vois.
Ouais.
Ouais.
Ouais. Il adore les automobilistes, il les défend à mort.
Et un jour, il a essayé de faire, pour montrer que les armes pouvaient rentrer en France n'importe comment, il a mis des fusils pour faire la frontière Italie-France dans son coffre.
Mais donc, du coup, il s'est mis hors la loi lui-même, cet imbécile. Et après, il a dit, ah, vous voyez, les armes. Il fait, mais qu'est-ce que t'as des armes, toi, déjà? Qu'est-ce que t'es en train de faire, gros? Voilà, c'est lui.
Ah ouais, une autre fois, il s'était rendu célèbre, il avait fait une opération péage gratuit, mais il s'était trompé de sens de péage. Du coup, il laissait la barrière ouverte au moment de prendre le ticket, et pas au moment de payer. Et du coup, il y a des automobilistes qui se sont fait niquer à cause de lui.
Voilà. Un champion, tu vois, on est vraiment sur un champion.
Ah, on est sur un mec bien. Non, on est vraiment sur un mec bien.
Là, c'est vraiment, par contre, ultra spécifique comme
oui, c'est des rêves. C'est des rêves des années 2010, à l'époque, Yann Barthès, tout ça.
Je sais pas comment on peut t'aider plus.
Ah, là, parce que là,
je l'ai pas.
On est vraiment sur des trucs précis, quoi.
Oui, bah oui, peut-être un peu trop.
Du coup, vous pouvez peut-être m'aider moi un peu. Oui. Moi, je t'ai dit, pense à la couleur de cheveux. La couleur de cheveux?
Bah ouais.
Ouais. T'as la même, ouais.
Ouais, t'as la même, ouais.
Quoi?
Je voulais pas le dire comme ça, mais.
Non mais là franchement c'est vous qui
on est juste
faites traîner. Vous n'avez pas envie qu'on fasse les questions d'actualité?
Un ministre qu'on a eu deux fois sur Backseat.
Une ministre qu'on a eu deux fois sur.
Ah mais depuis tout à l'heure vous me dites que je suis un mec.
Non jamais on t'a dit.
Mais c'est Pompili.
Mais oui c'est Barbara Pompili.
Bordel, moi je pensais que j'étais un mec. Putain, j'ai demandé, j'ai dit est-ce que je suis un homme, vous m'avez dit oui.
Non, absolument pas, on n'a jamais dit ça. Barbara Pompili, ancienne ministre de la transition écologique.
Non mais franchement, si ma première question est bonne.
Mais vraiment, je ne l'ai pas.
T'as rejoint Marine Le Pen entre les deux tours de l'élection présidentielle en 2022.
Non.
Tu as publiquement appelé à voter pour elle.
C'est un nom composé.
C'est un nom composé.
En 2017 d'ailleurs.
Avec pont dedans.
Ouais. Et puis t'as renoncé aux européennes là.
Là vraiment.
C'est bon, voilà. Tu te concentres sur la présidentielle.
Et t'as été maire de quelle ville déjà?
Hier.
Hier. Voilà.
Ah merde, ouais.
Hier. Ah ouais, j'ai toutes les datas sur lui.
Tu viens de renoncer. Ça en devient même bizarre.
Candidat à la présidentielle.
Ouais.
Oui.
Oh, jusqu'à.
Mais vraiment minable, tu vois.
Oui, mais je vois, mais je retrouve pas le nom.
Genre, prénom Nicolas.
Tu prends le pire candidat à la présidentielle, tu prends son cousin.
Ouais, je l'ai, Dupont-Aignan.
Bravo! Nicolas Dupont-Aignan. On n'a pas été sympa avec lui ce soir, mais c'est pas très grave.
S'il nous regarde.
Ouais.
On t'embrasse pas!
On t'embrasse pas, le champion.